Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui on va parler de manga, mais pas de beaux mangas sous blister, les beaux mangas impeccables qui ont encore la fraîche odeur de l'imprimerie. Ah non, pas cela. Non, là il va être question de mangas d'occasion, des mangas qui ont déjà une histoire, des traces d'usure, parfois un peu griffonnées, crayon de papier à l'intérieur. Genre il y a un petit prix. 6 francs. Car oui, le manga d'occasion, c'est un objet un peu à part. Pour certains, c'est une évidence économique, mais pour d'autres, c'est presque un interdit. Entre les deux, il y a un marché un peu discret, bien réel, fait de brocantes, de librairies, de plateformes en ligne et de lecteurs qui font circuler les œuvres autrement. Malgré tout, ce marché pose pas mal de questions. Comment est-il structuré ? Qu'est-ce que ça change pour les auteurs, pour les éditeurs et pour toute la chaîne du livre? Comment se porte-t-il? Avant de rentrer dans des chiffres, dans les études, dans les débats, j'aimerais malgré tout vous poser une question ici autour de cette table. Quel est votre meilleur souvenir lié à un manga d'occasion?
Bah moi c'est Gone, la série avec le petit dinosaure qui casse la gueule à tout le monde. Parce que j'avais acheté effectivement à l'époque le tome 1. Chez Casterman, c'était encore les éditions Casterman, pas Sakar, rien du tout. Ouais. C'était vraiment écrit Casterman sur la couve et voilà, c'était début d'une grande histoire d'amour quoi, quelque part.
Moi, tu sais, c'est même pas un manga, c'est un sac de goodies, enfin c'est un goodies de sac, un grand sac de Miyeru Ito, l'une des premières séries de Iwashiro, l'auteur de Psyred. Et le jour où j'ai trouvé ça sur une brocante près de chez moi, j'ai fait mais. Incroyable, incroyable, jamais j'aurais cru trouver ça dans une brocante. On trouve des trucs dans les brocantes des fois. Monde merveilleux.
Bah, c'est ça qui est marrant en brocante, c'est que tu peux aussi voir des tendances de manga un peu à la revente. Il y a certaines séries que tu trouveras jamais en brocante. Typiquement Hunter x Hunter, tu ne le trouves pas en brocante. Les gens, ils le gardent, sauf l'abruti de Cagnard quand il était petit et qui a mis sa collection de Hunter à vendre.
Alors que Digreyman?
Dick Grayman, il y en a pas mal, mais il y a plein de séries comme ça. Sergent Keroro, tu peux le trouver un peu dans toutes les brocantes. Il y a plein de titres qui reviennent, mais du coup, moi, mon meilleur souvenir...
ouais, une trouvaille, une série trouvée par hasard, un tome manquant.
C'est pas Jojo, parce que ça s'est passé il y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans, je crois. J'étais dans une brocante et je vois un jeune homme, il a, je sais pas, 12 ans, je pense, il a... Un petit tas de merde, il y a plein de trucs, tu vois, des cartes Pokémon et compagnie. Et il a des mangas, donc je regarde vite fait. Et je vois un titre qui s'appelle Zombie Powder, ça me dit rien. Et je vois, il y a écrit Tite Kubo. Et je fais, bah, attends, c'est une des premières séries de Tite Kubo, tu vois. Et là, j'ai vraiment fait le parce que je me suis un peu écarté et j'ai regardé combien il cotait sur Internet. Et ça cote pas des centaines d'euros, tu vois, mais c'est du 30-40 balles par tome parce qu'ils sont devenus assez introuvables. Et du coup, je les ai achetés savamment. Je lui ai pas dit, tu peux les vendre plus cher ou autre. Je les ai pris, il les vendait 1 euro pièce.
Mais quel aveu. Non, moi, en trouvaille de manga d'occasion, moi j'en ai acheté beaucoup et du coup c'est un peu qu'est-ce que je peux citer là tout de suite. Je pensais à des quand des fois tu trouves des séries qui ne sont plus trouvables, par exemple Le Grand Creux de XXXOLIC. J'étais contente que certaines personnes revendent certains de leurs tomes et donc patiemment j'ai reconstitué
des petits tomes manquants introuvables.
Exactement.
Quoi.
Clamp est un très bon revendeur de mangas d'occasion, hein, oui. Mine de rien.
Mais tu remarques que souvent l'occasion c'est des petites histoires, tu retiens les histoires de comment tu as réussi à retrouver ce manga, quel manga,
oui.
Et ainsi de suite.
C'est souvent accompagné d'une petite histoire.
C'est ça, après c'est une quête, il faut combler les trous et tout, et c'est intéressant.
Cette semaine, on met le manga à l'épreuve de l'occasion. C'est la cinquième de couve.
On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards.
Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas d'occasion. Bonjour à tous, Robin, Julie et Cagnard sont avec nous aujourd'hui.
Bonjour. Salut. Maxime.
Salut. Ça va la team brocante?
Team Brocante, ouais.
Ouais, Team Brocante, oui, oui.
Est-ce qu'il y a un manga sur les brocantes?
Pas encore, pas encore.
Il y a Louis la brocante qui n'a pas été fait en manga.
Écoute, si quelqu'un a envie d'acheter les droits.
Déjà, est-ce que les brocantes, c'est commun au Japon?
Oui, il y en a.
Ouais, il y en a quand?
Il y en a, il y en a.
C'est, je veux dire, c'est dans le. Est-ce que c'est aussi important qu'en France, tu vois, où tu sais qu'il y a la saison
les
des brocantes
du dimanche,
tu vois, t'es trop content.
Non, non, mais je sais qu'il y a des quartiers dédiés, il y a des parcs où tu sais que tous les week-ends, il peut y avoir des événements, des brocantes ou des vide-greniers. Après, il y a aussi des trucs spécialisés pour les antiquaires, par exemple, où c'est
oui,
un peu
ah
plus
bah oui.
avec...
On ne parle pas de ce genre de
brocantes. Ah oui,
de
on
ne
parle
brocantes.
Pas de ça.
Si vous nous découvrez seulement maintenant, nous sommes la cinquième de couvre, le podcast Manga Hebdo depuis 10 ans maintenant, donc scrollez sur vos apps. Podcast. Il y aura toujours une émission pour vous et merci à tous de nous soutenir en écoutant cette émission. Et si vous aimez ce qu'on fait, c'est important, laissez un commentaire, une note ou partagez l'épisode autour de vous. Et la semaine prochaine, on revient sur le blockbuster attendu de cette année. J'ai nommé le manga Ichi the Witch. Manga d'occasion maintenant dans cette émission. Alors où est-ce qu'on trouve des mangas d'occasion? On a parlé de brocante.
Oui.
Ok. Oui. La brocante, c'est...
C'est l'occasion au sens large. Quoi.
L'occasion fait le larron.
Ouais, mais la brocante, t'es obligé d'attendre la bonne saison. C'est ça le problème, la bonne dame.
C'est le problème
d'attendre la saison.
Vous êtes brocanteur vendeur ou brocanteur acheteur?
Plutôt acheteur. Vendeur, je l'ai fait un peu, mais c'est vrai que plutôt acheteur. Quoi. J'aime bien, j'avoue, ça, c'est un truc que j'aime bien faire.
Cagnard, est-ce que tu te souviens quand j'avais un stand à la braderie de Lille?
Mais évidemment que je m'en souviens, c'était devant chez moi. Je m'en souviens très bien. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait vendeur et acheteur. Et j'avoue que vendeur, c'est très drôle quand même.
Oui, en vrai, c'est marrant.
Surtout que pour le coup, ce que Maximilien ne précise pas, c'est que son stand de brocanteur était littéralement un stand de manga d'occasion. Ils vendaient que ça. Ils vendaient que des mangas
j'ai
d'occasion.
J'ai rien d'autre à vendre, en fait.
Oui. Si t'avais ta télé avec Mortal Kombat sur PlayStation 3.
Ouais, bah ouais, la dernière que j'ai faite, c'était ma meuf vendait des fringues et moi des mangas, bah j'ai gagné. Je peux vous le dire tout de suite. Hein.
En termes de volume, genre t'as tout vendu.
Ah, de
ou...
chiffre d'affaires,
ah ouais,
volume, tout.
Ah ouais, c'est d'accord. Vraiment, okay. Ouais. Non, moi j'aime bien plutôt regarder et prendre des trucs, des pépites, quoi. Des trucs que tu t'attends pas à trouver et puis tu dis, oh, il était là.
L'analyste.
Ouais. Ouais, bon.
Après, où trouver du manga d'occasion? Il y a les brocantes, effectivement, parce que c'est plein de petites histoires et ainsi de suite. Mais il y a les librairies et il y a même maintenant des librairies spécialisées 100% occasion en manga.
Ouais.
Pas que en, tout, en que en manga, ça existe. Et les libraires qui s'y mettent de plus en plus aussi, des libraires qui font du neuf et de l'occasion. Il y a une librairie qui s'appelle MCBD, par exemple, à Bastille. Ils font les deux... Ils n'ont pas beaucoup d'occasions, mais quand tu tombes sur un bouquin d'occasion, tu fais « Ah, je me laisse
ouais,
tenter,
ouais.
quoi. »
Après, t'as la grosse enseigne parisienne, c'est Gibert, quoi. Enfin, pas que parisienne, d'ailleurs, mais c'est, oui, c'est les bouquinistes, libraires bouquinistes.
C'est marrant, les libraires qui se mettent à faire de l'occasion ou un petit rayon d'occasion, ça me rappelle les grandes surfaces qui ont un rayon pour les bouquins, pour les produits qui vont pas, qui vont périmer dans pas longtemps, tu vois. Et là, vu que c'est de la seconde main, on a fait une petite étagère. Bon, vérifier la date de péremption quand même avant de consommer ce manga, c'est important.
Et tu parlais de Gibert, il y a d'autres enseignes un peu populaires à Paris, en tout cas pour la capitale. C'est Book Off, qui est une enseigne japonaise.
Oui.
Qui a un succès complètement fou au Japon depuis... Enfin, c'est une institution au Japon, comme Gibert l'est pour nous, parisiens.
Ouais, enfin, et c'est une histoire assez récente, je crois. En fait, ça me fait rire parce que quand j'étais étudiante, j'avais un camarade qui avait fait justement un mémoire sur les stratégies marketing, l'histoire de Book Off, et surtout, je crois qu'ils avaient un truc un peu différent qui était au niveau du management. Et donc, lui, il avait, c'était sa spécialité d'étudier ce genre de truc. Et c'est vrai que quand c'est arrivé en France, c'était il y a une vingtaine d'années maintenant, et à Paris, ils avaient quand même été jusqu'à 3 ou 4 magasins dans Paris.
Il y en a toujours plusieurs.
Ouais,
aujourd'hui.
C'est vrai. Et c'est sûr que c'est. Enfin, il y a quand même. Enfin, c'est marrant de voir qu'ils ont essayé de s'implanter, alors que, comme tu disais, il y a Gibert, il y a Bouligné, enfin, il y a différents. Grandes enseignes, finalement, du livre d'occasion déjà installé, quoi, depuis.
Moi, j'avais plusieurs enseignes, plusieurs repères. À Lille, j'avais la bourse au livre, qui a lieu tous les week-ends à côté de la Grand Place.
Oui, mais on retrouvait les mêmes mangas toutes les semaines. Il y avait Flamme Afrika qui voulait pas se vendre. Ça a pris.
Ah oui, c'est vrai, Flamme Afrika, manga de
classique brocante.
Et Codebreaker aussi.
Codebreaker, classique brocante, effectivement.
Et à Paris, j'avais Book Off et Bouligné, parce qu'on pouvait vraiment trouver des mangas à 2 euros.
Oui.
Bah, moi, j'ai très longtemps. Ouais. Et le manga à 2 euros, tu fais... Ok, bah, ouais. J'en achète plein. Quoi.
Moi, j'habitais dans le 15e et à côté du parc Georges Brassens où il y a les puces des bouquinistes. Et du coup, tu avais beaucoup de vieilles éditions de littérature et trucs comme ça, mais tu avais aussi finalement des vinyles, des mangas. Enfin, tu sais, du coup, j'y allais tous les week-ends. C'était cool.
2 euros le manga? Ouais. Mais bande de bourgeois, suivez-moi, dépassez le périph' et atterrissez en banlieue, et bienvenue chez Cash Converter. Les mangas coûtaient 1 euro chez Cash Converter, c'était 1 euro, j'ai acheté tout X de Clamp à 1 euro, la complète. Alors on était vraiment sur... Après, ils te les rachetaient aussi à un prix défiant.
Oui, oui.
Te défiant, toi.
Oui, ça c'est le jeu aussi. Mais effectivement, t'as maintenant... Un peu moins parce qu'il y a un peu plus de concurrence. Mais à une époque, tu pouvais faire des trouvailles dans les Cash Converter, les Easy Cash, les Simply Cash, les Cash, ce que tu veux.
C'est vrai que maintenant, avec les cotes sur Internet, c'est vachement plus compliqué. Moi, je suis aussi consommateur de vinyle, j'en achète pas mal. Et en vrai, quand j'ai commencé, ça allait. Tu pouvais aussi, pareil, faire des affaires et tout. Là, maintenant, c'est très compliqué parce que tout est tellement coté et enregistré sur Internet que, en fait, maintenant, tout le monde connaît les prix. C'est un peu
difficile. Oui, à l'époque, Cash, ils vendaient pas cher parce qu'ils savaient pas ce qu'ils avaient dans leurs étagères.
Mmh. Et les mangas coûtaient le même prix. Les libraires qui font de l'occasion, ils ont aussi les yeux rivés sur les raretés.
Ouais.
Et dans certaines librairies qui font aussi de l'occasion, t'as carrément des mangas sous vitrine qu'on ne peut pas prendre avec les mains. Et il n'y a pas de prix dessus.
Comme l'épisode 1 Spider-Man sous son blister et tout, tu vois.
Et faut demander, faut si savoir le prix.
Et t'as des gants blancs, ils vont ouvrir avec la vitrine.
Et en général, tu dis non, mais je vais réfléchir. Parce qu'en général, c'est bien, bien cher. Et puis il y a Internet.
Ouais. Bah ça a dû, mais tellement changé. Enfin, comme Internet a changé plein de choses dans nos vies, évidemment. Mais je me dis, effectivement, quand t'as vu l'essor de tous ces sites, parce qu'en plus, maintenant, ça se spécialise, quoi. Il y a vraiment des plateformes qui sont entièrement dédiées aux livres d'occasion. Et tu te dis, je sais pas, il fallait y penser.
Mais tu sais, en remontant plus loin, moi, je me souviens très bien de la découverte d'eBay à l'époque. Tu vois, et moi qui habite en banlieue, j'ai une Fnac quand même qui est bien fournie en termes de livres, mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas tous les mangas que je veux. eBay débarque. Et là, je vois des lots d'occasion avec tout le GTO et ça coûtait que dalle.
Ouais.
Et je me suis perdu dans des enchères et des enchères que j'ai perdu et tout.
Mais rappelez-vous que l'origine d'Amazon, c'est quand même
le
marché du livre, quoi. Donc c'est vrai que c'était eux le gros marchand, alors livre neuf et d'occasion, mais je veux dire, c'était quand même principal acteur de ça au départ. Quoi.
Mais moi, je pour l'instant, j'utilise Amazon que pour les livres.
Bah,
je ne sais pas
moi, j'ai un peu regardé ça.
Est-ce que je suis un spécimen rare?
Non, mais parce qu'en fait, en vrai, encore aujourd'hui, pour des fois, si tu cherches un livre très très compliqué à trouver, tu vois, par le circuit classique, Amazon, ça reste quand même, malgré tout, je pense que c'est l'héritage de cette histoire, finalement, fait que c'est encore efficace. Quoi,
et tous les revendeurs qui ont des boutiques, du coup, sur Amazon.
En plus, les mêmes qui sont aussi sur Rakuten, où il y a beaucoup de livres, qui est d'ailleurs une entité japonaise à l'origine, Rakuten. Et on a aussi Vinted, Le Bon Coin. Après, vous les connaissez tous. Il y en a aussi qui sont spécialisés dans le bouquin, comme Momox, comme la Bourse aux Livres, dont on parlera aussi dans quelques minutes. Et puis les marketplaces Facebook, ceux-là aussi, ils me font peur, ceux-là. Les marketplaces Facebook,
c'est tout un lore qu'il faut maîtriser, tu vois, avant de se lancer là-dedans.
Ah, c'est vrai que ça fait un peu peur. Hein. Je sais pas pourquoi ça ressemble autant à une interface d'arnaque.
Mais
spontanément, tu vas dessus, tu dis donc je vais me faire arnaquer.
Et moi, j'ai une fois quand même réussi une transaction.
J'ai réussi une transaction, j'allais au bout.
C'est vrai?
Oui, mais parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un que je connaissais.
Ah, d'accord, ok.
Donc elle m'a dit, mais c'est toi, mais c'est trop bien que ma collection, c'était des livres en japonais qui n'ont jamais été édités en France. Et elle m'a dit, je suis contente que ma vieille collègue atterrisse chez toi. Et donc voilà, effectivement, tu te dis, t'es passé entre les gouttes.
Oui, là, tu connais. Ouais. Le pire, c'est que je suis sûr que la plateforme doit être aussi sécurisée qu'une autre, mais je sais pas, elle me donne pas confiance.
Je pense que c'est la charte graphique aussi qui est un petit peu...
Ouais, puis un côté fais-moi confiance sur Facebook. Non, du coup, pas du tout. Et le dernier point où on peut trouver des mangas d'occasion, en dehors des bouquinistes que je mettais dans la case boutique, évidemment, c'est les médiathèques. Quand elles vident, le font.
Ça, ça arrive. Et quand ça arrive, c'est pas cher.
Non. Mais par contre, ils sont plastifiés.
Oui. Oui, et puis il y a écrit bibliothèque de
ouais, y a les tampons,
département de l'Ardèche.
Ouais.
Et la ref pour la retrouver en rayonnage.
Ouais, ouais. Ouais. Donc oui, y a, et puis parfois, enfin, je sais pas, ils démagnétisent, tu sais, ils ont des antivols, des trucs comme ça. Mais bon, bah des fois, c'est vrai que ça peut dépanner. Je sais pas, si tu veux acheter des gros volumes, c'est pas cher. Et puis bon, par contre, des fois ils sont quand même un petit peu abîmés, ils ont été beaucoup manipulés, quoi, surtout les mangas. Donc mais ça peut être une solution, hein.
Je savais même pas que les bibliothèques revendaient des bouquins.
Bah moi, je m'en suis rendu compte le jour où un jour j'ai acheté un truc sur internet pour le coup, et j'ai vu arriver le truc, j'ai ah ouais, ok, c'est vraiment genre une édition de médiathèque qu'on m'a vendu, quoi. Et
après, donc, ça me donne une bête d'idée de télé-réalité, hein. Des mecs qui s'affrontent pour acheter les meilleurs lots, qui les retapent, qui enlèvent le plastique et tout.
Ah non, ça c'est pas possible. Start.
Sur Discord, on a un auditeur qui m'a dit il y a une technique pour enlever le plastifiage de médiathèque, bibliothèque.
Ah bah j'en suis sûr, oui.
Ah bah je suis pas
c'est
sûr.
Juste qu'il est seul à la
connaître. A priori, il faut être minutieux, ce que je ne suis pas. Donc, faut mettre au micro-ondes, c'est encore un truc comme ça.
Ou dans le lave-vaisselle, d'abord, pour cuire ton poulet. Et en même temps, ça enlève...
Ton foie gras, pardon,
tu fais tout. Julie, qu'est-ce que tu penses de ce marché? Comment tu le trouves, ce marché de l'occasion?
Moi, je trouve que c'est un marché très éparpillé. Et en fait, quand tu nous as annoncé le sujet... Je me suis dit, waouh, c'était vraiment la dune de sable, en fait. Parce qu'on on sait que, comment dire, il y a un paysage qui s'ouvre devant toi et il a l'air vraiment infini, parce que c'est du manga et que le manga, par définition, est infini. Et il y a aussi cette impression d'avoir des informations qui arrivent de partout, qui ne sont pas forcément faciles à appréhender, parce que je pense que c'est difficile quand même d'avoir des chiffres, même si on va voir par la suite que voilà, et c'est un marché qui est très, très observé, quoi.
Clairement, c'est le continent interdit de Hunter. vous ne savez pas où vous arrivez.
Mais vous voulez des chiffres? Je vais vous donner des chiffres.
Attends, j'ai envie de quand même ajouter quelque chose. C'est que moi, je trouve que c'est intéressant tout cet aspect du livre d'occasion et du manga d'occasion, sachant que bah, c'est quand même un objet qui a une grande partie de sa valeur liée au renouveau, enfin au fait qu'il y ait toujours des nouveaux épisodes, des nouvelles séries, enfin la saisonnalité finalement du manga, enfin saisonnalité c'est pas le terme exact, mais le côté il est vraiment soumis à ce facteur temps qui est de toujours alimenter en fait un marché. Et c'est d'autant plus intéressant que maintenant on a quand même un marché de l'occasion qui, à mon avis, est bien établi.
Est-il vraiment établi? Voyons ça en quelques chiffres. Tout d'abord, je voulais vous parler d'un phénomène qu'on voit chaque année. C'est le fameux pic post-fête. Vous le connaissez, ce fameux pic post-fête de revente? C'est celui où on a les marronniers, tu sais, dans les JT à la télé en disant « c'est le moment de revendre vos cadeaux de Noël ».
Ah oui, non, mais celui-là, il arrive de plus en plus tôt, j'ai l'impression. Bah, il arrive avant le Dry January.
Le 26 janvier, le 26 décembre, ouais. Quoi.
T'as une espèce d'enchaînement Dry January, solde, pic post-fête, revendez vos cadeaux et galette.
Ouais. Il y a la Bourse aux Livres, donc le site, hein, la Bourse aux Livres, qui est un site d'achat, revente de livres, qui est un peu particulier d'ailleurs, puisque on est à mi-chemin entre la plateforme de type Le Bon Coin et le dépôt-vente. Et un Momox qui va te racheter. Donc on est vraiment à cheval entre plusieurs choses.
Ou un
choses.
Peu Gibert aussi, parce qu'ils ont le même système,
Gibert,
un peu
exactement.
D'appli, entre guillemets, où tu scannes tes trucs et tout. Et...
Sauf que là, t'as le choix entre prendre ça en bon d'achat tout de suite ou attendre que ça soit acheté à ce moment-là.
Comme Gibert pour le coup. Ouais. Soit t'as un bon d'achat tout de suite.
En fait, Gibert, il te les achète de toute façon.
Ouais, dans tous les cas.
Là, c'est la somme qui change chez Gibert.
Là, la Bourse aux Livres, si c'est pas vendu dans l'année, tu peux demander à ce qu'ils te le renvoient.
Ok.
Donc, il y a un petit côté, entre guillemets...
Comme j'ai trouvé.
Non,
dépôt-vente,
ouais. Donc, ce qu'il nous disait, c'est qu'en moyenne, sur une semaine en janvier, c'est 128 000 livres qui sont collectés, qui sont vendus sur la plateforme, enfin, déposés dans la plateforme, contre 87 000 sur une semaine pour le reste de l'année.
Waouh.
Plus 50%, quoi. Le janvier, c'est la folie, ouais. Voilà. C'est le fameux post-fête. Mais tu sais, ça correspond aux fameuses périodes de tri. Tu sais, t'as le ménage de printemps dans tes bouquins. Mmh. Vous faites jamais, vous profitez jamais d'avoir des vacances pour faire le ménage dans vos bouquins.
Mais ouais. Si, Maxime, évidemment, on prend tous des vacances pour faire le ménage. Les auditeurs et tous les membres du podcast sont avec toi, oui.
Bah, en fait, moi, je dirais que oui, il y a ce genre d'épisode, mais je l'ai jamais associé à une saison particulière, tu vois. C'est pas forcément le début d'année, c'est un moment où j'en ai marre et je me dis là, faut faire quelque chose, tu vois.
Ah, moi, souvent, alors oui, je peux en arriver là, mais souvent, ça tombe soit pendant les fêtes de Noël, okay. Du coup, je suis en congé, ou soit un peu avant l'été.
Après, faut prendre en compte que ta maison, c'est un dépôt vente à la base. Donc oui, toi, je comprends. Mais oui, toi, en fait, en fin d'année, c'est normal. Tu fais l'inventaire, tout simplement.
Bien sûr,
c'est ça, tu fais l'inventaire.
Le manga dans tout ça, alors, est-ce qu'il est un nain dans le monde du livre de seconde main? Parce que la Bourse aux Livres nous a partagé quelques chiffres assez intéressants sur le manga d'occasion. Ils ont partagé leurs chiffres, leurs données, et on les remercie pour ça. Et d'abord, côté vente sur leur shop en ligne, en 2024, il y a eu un peu plus de 57 000 mangas qui ont été vendus.
C'est pas mal. C'est pas,
t'as l'impression que c'est pas mal quand tu vois le chiffre, et puis en fait, ça reste une part du volume global de moins de 3%, de 69.
Ouais, mais de la part de un des acteurs du marché.
Bien sûr, mais du coup, tu mets ça en valeur.
Moi,
j'imaginais
ça plus haut, pour le coup.
Et ça concerne 3%, quasiment 3% des acheteurs. 2,97% des acheteurs sont concernés. Ça, c'était pour 2024. On arrive en 2025. On observe là, à ce moment-là, une progression qui est bien nette, avec plus de 122 600 mangas qui ont été vendus, soit une part du volume total bien en progression, 3,7%. Et le volume acheteur qui passe à 3,75, qui est quasiment identique.
Mais ils ont doublé, quoi, du coup.
Mais ils ont doublé en un an.
Est-ce que les lecteurs de Jujutsu Kaisen
est-ce que c'est pas un des effets de la surproduction dont on parle tout le temps, mais elle se retrouve même là, tu vois?
Ouais, bah, on peut l'avoir là, ouais.
Ou même juste le fait que, bah, en ce moment, économiquement, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'avoir un petit peu de sous.
On va y venir, parce que justement, le manga reste minoritaire donc dans l'offre globale, mais ça progresse et ça touche proportionnellement plus d'acheteurs que de volume. Et donc, côté collecte, les mangas vendus via l'application, en tout cas collectés via l'application, le constat est assez proche, mais encore plus intéressant, parce qu'en 2024, on avait 76 866 mangas qui ont été collectés, ce qui représente donc là 2,39% du volume, on est encore tout petit, mais ça représente 14% des vendeurs.
Ah okay, oui, quand même.
Ah oui. Oui, c'est vraiment des gens qui vendent...
Bah, c'est-à-dire que c'est beaucoup de gens qui vendent quelques mangas peut-être au milieu de leurs autres bouquins.
Ouais, c'est ça, oui, exactement. Okay.
Et en 2025, la collecte grimpe à plus de 126 200 mangas avec 3,14% du volume. Là aussi, ça grimpe en 2025. Et là encore, plus de 15,5% des vendeurs.
Attends, mais 126 000 collectes pour 122 000 ventes, ça fait dire qu'ils ont très peu de stock, en fait, finalement. Ouais. Ils revendent quasiment tout.
J'ai cru comprendre que c'était le business plan de la Bourse aux Livres. C'est justement de ne pas avoir trop de stock et d'avoir beaucoup de turnover, quoi. Autrement dit donc, le manga pèse peu en volume mais il mobilise beaucoup de particuliers à la vente, et il n'y a pas de vraie saisonnalité qui a été marquée, nous a-t-on dit, sur le manga, à une exception près, qui est le mois de juin, où la collecte de manga augmente d'environ 30%.
Ah, les gens font le ménage.
C'est pas le ménage de printemps,
comme
c'est
moi,
genre avant
c'est
les vacances
d'été, quoi.
Avant les vacances,
c'est le ménage avant le Japan Expo.
Exactement, Japan Expo, faut vider les étagères et
tu vas revenir les sacs blindés, donc ouais, faut vider. Bizarre.
Le cofondateur de la Bourse aux Livres, Dorian Loreva, qui nous a donné ses chiffres, hein, nous a aussi livré son analyse, et il nous dit, entre 2024 et 2025, on voit une très forte accélération du manga sur notre shop, dans la continuité de la dynamique du marché du livre. En un an, les volumes de manga vendus ont plus que doublé, et on observe la même chose côté collecte. De plus en plus de vendeurs nous confient des mangas qui prennent une place croissante dans les livres que nous récupérons. Ça confirme donc l'intérêt durable de la communauté pour ce format, y compris sur le marché de l'occasion. De notre côté, on travaille toute l'année pour enrichir l'offre manga et mieux répondre à la demande avec des actions très concrètes, notamment sur des conditions de reprise plus attractives. Aujourd'hui, le manga fait clairement partie des références les plus recherchées sur notre shop. Et il a de beaux jours devant lui, si je comprends bien en conclusion. Hein, il y a vraiment une appétence pour la revente de manga en tant que consommateur et dans la recherche de lieux de vente aussi. C'est ça, en fait, quand je vois que 15% des vendeurs au total sont concernés par le manga, je me dis pour quelle raison ? Pourquoi il y a ce delta qui est comme ça ? Et ce que je vois avant tout, c'est qu'on est avec le manga sur des livres qui valent pas cher. Par rapport à la BD, surtout, par exemple, et par rapport à d'autres
bouquins.
Là,
on est sur du poche.
Bah, c'est ça. Donc, les prix d'achat, chez un Gilbert Joseph ou chez un libraire, ça valent vraiment, vraiment pas haut. Et parce qu'il faut bien qu'il dégage une marge, forcément, à un moment donné. Donc, les opportunités un peu hybrides, comme ça, comme la bourse aux livres ou autre, ça représente une opportunité assez intéressante parce que finalement, tu gagnes un peu plus que si tu le vends en stock, en cash à un Gilbert Joseph, quoi, par exemple.
Ouais, ça te demande un peu plus d'investissement personnel en termes de rentrer ta collection, de faire les envois et compagnie.
Bah, et puis je pense qu'ils ont... Bah, cela dit, Gilbert, ils ont développé ça aussi, mais je pense qu'ils ont
un système
hyper pratique.
T'as un bon imprimé, tu mets ça dans un seul carton, voilà, tu l'envoies, c'est réglé. Hein.
Oui, non, mais je me doute
comme
Gilbert.
Hyper ergonomique. Ouais.
Ça demande un effort en plus que d'aller...
Pour moi, l'effort en plus, c'est le vendre à la main. Le Bon Coin Vinted, ça c'est un vrai effort parce que aujourd'hui moi je trouve que c'est énormément chronophage entre les arnaques déjà parce que t'en trouves de plus en plus, les problèmes de transport, les mauvaises conduites individuelles, les gens qui t'insultent pour rien ou qui te disent je te prends tous tes mangas pour 1 euro. Le besoin, il y a un besoin où faut être plus pro qu'un pro sur ces sites Le Bon Coin, Vinted, ouais. Où on va moins t'excuser, te mettre une étoile pour rien au lieu de 5. T'as intérêt à super bien emballer les choses, t'as intérêt à faire un vrai beau carton. C'est la jungle. Ouais. Les photos, faut qu'elles soient belles, sinon on t'achète pas.
Il faut en prendre 40 de tous les angles parce que le mec il te dit oui, mais je voudrais voir s'il est en bon état.
Exactement. Faut que ton texte d'annonce soit nickel, faut limite mettre des tags. Faut être plus pro qu'un pro.
En fait, c'est la relation client qui vous souligne. Vous voulez pas parler avec des gens, c'est ça le truc.
En fait, pas avec ces gens-là.
À partir du moment où t'achètes un truc de balle, arrête de faire genre, t'es en train de, je sais pas, contrôler la qualité du truc, quoi. T'achètes quoi. C'est de l'occasion, quoi.
Je sais pas, moi, ça me fait penser à un truc et je me dis, mais soit je suis très naïve, soit je suis très confiante, mais j'ai quand même, tu vois, acheté des doujinshi.
Naïve,
japonais
naïve.
À des personnes en Espagne.
Confiante, plutôt confiante sur ce coup-là.
Et non, il s'est arrivé nickel. La personne était adorable, avait mis un mot dans le truc. Et j'étais contente d'avoir mes doujinshi. C'est genre en mode ouh. Et c'est vrai que c'était des trucs que tu ne trouvais même plus sur certains sites de revente au Japon. Donc j'étais vraiment très contente.
Mais ce qu'on voit en tout cas par rapport à tous ces chiffres et à ce que nous donnait Dorian Loreva, c'est que c'est en pleine expansion. En tout cas, sur Internet, c'est qu'on le voit aussi, nous, en termes d'expérience personnelle aussi. On en voit de plus en plus sur Vinted, on en voit de plus en plus sur Le Bon Coin. On a ce sentiment, en tout cas nous, que le manga d'occasion grandit chaque jour.
Oui, mais c'est fou même que ça ait pris autant de temps, parce que du manga d'occasion, il en existe vraiment depuis très très longtemps. Tu vois, je parle de il y a déjà 20 ans, c'était déjà présent. Et alors, c'est malheureusement, enfin les magasins, on va dire, ils sont toujours dépendants de ce que les gens leur rapportent aussi. Mais moi, ça m'a toujours étonné qu'à l'époque, en tout cas, les gens n'aillent pas plus chercher, parce qu'il y avait énormément à trouver. Alors que maintenant, on est sur un truc qui est peut-être pas légiféré, évidemment, mais qui, avec ses applis, les sites de cotes et compagnie, t'as l'impression qu'ils se réveillent. Ou alors, c'est peut-être un effet seconde vague, tout simplement. Tu vois, le manga a explosé en termes de vente de manga neuf, je veux dire. Mmh. Et du coup, c'est un des effets de la vague derrière, ça n'a pas pu faire 100% de convertis, donc il y a peut-être des gens qui ont un peu lâché l'affaire aussi.
Et puis je pense qu'il y a un effet peut-être marginal, mais qui peut aussi expliquer le truc, c'est les nouvelles éditions en fait. Parce que comme maintenant on est sur un marché où nous, on en parle régulièrement ici, il y a des œuvres qui sont régulièrement rééditées et tout. Quand c'est une œuvre qui est rééditée, tu as envie de la racheter si tu es fan. Et qu'est-ce que tu fais de ton ancienne? En général, tu la revends, tu vois, ou tu la donnes ou tout. Mais genre, ça peut aussi alimenter mécaniquement le marché de l'occasion.
Tu parlais du passé, Cagnard. Je vous propose d'aller dans le passé maintenant avec une étude qui a été réalisée, qui a été livrée en France en avril 2024. C'est le ministère de la Culture et la SOFIA. Alors la SOFIA, c'est la Société Française des Intérêts des Auteurs de l'Écrit. C'est un organisme de gestion collective qui est administré par les auteurs et par les éditeurs à parité dans le domaine du livre. Et donc, ensemble, ils ont produit une étude sur le poids du marché de l'occasion dans le livre en France. C'était réalisé en 2023, donc avec les chiffres de 2022 au plus récent. Et ils sont remontés jusqu'à 5 à 10 ans en arrière. Donc on va pouvoir avoir un panel assez intéressant sur ce qui s'est passé sur le marché de l'occasion en France. Et évidemment, ce marché, il a fortement progressé ces 10 dernières années, au point de devenir quasiment banalisé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, près d'un livre sur 5 est acheté d'occasion en France.
Enfin,
aujourd'hui de l'époque, donc.
Il y a de l'année dernière.
Il y a un an et demi, presque 2 ans, c'est vrai. Oui. Mais Est-ce que c'est réparti de manière équitable sur tous les domaines ? Pas du tout, parce que si un livre sur cinq est acheté d'occasion en France, à ce moment-là, à cette époque-là, seulement un manga sur 17 l'est. Et pour la BD, c'est 1 sur 8.
Ouais, mais je pense qu'en vrai, pour moi, c'est logique, parce que le manga, on est sur des séries hyper longues, et du coup, forcément, il y a un effet volume qui fait que, tu vas pas acheter tes 100 tomes de One Piece d'occasion. Personne ne vend les 100 tomes de One Piece d'occasion, tu vois. Donc, tu vas en acheter
après, c'est,
un ou deux ou trois.
C'est, des fois, il y a les arcs, par exemple, où des fois, les gens, ils font
genre,
un pack
tout
de
arc,
10.
Tout un arc de One Piece d'occasion. Bah, oui, mais je pense que c'est assez marginal, et c'est pour ça que l'essentiel du manga est acheté neuf, parce qu'il y a un volume, quoi. En gros, c'est un volume de tomes qui est vraiment très très conséquent, de référence on va dire, et pour moi c'est ça qui explique c'est le côté série, tu vois, genre,
ouais, et si d'ailleurs tu commences à acheter les 4, 5, 6 parce que c'est déjà sorti d'une série X ou Y,
tu vas
d'occasion
acheter la suite,
qu'à l'arrivée du tome 7 t'as trop envie de connaître la suite, donc tu l'achètes en 9
fois. Pas attendre d'aller en brocante pour trouver les tomes suivants, donc bref, je pense que c'est un peu ça qui explique, parce que moi j'avais vu des infos sur le polar par exemple, je crois que c'est un polar sur deux qui a acheté d'occasion, parce que là pour le coup on est sur des récits complets, et le polar c'est du récit, tu vois, de consommation, des trucs pas forcément que tu gardes chez toi, c'est juste t'achètes ça pour lire ça à l'été, te détendre et tout, puis une fois que tu l'as fini, bah tu vas pas le garder dans ta bibliothèque, donc tu le revends, et genre vraiment c'est vraiment un marché parallèle, quoi, le polar. Et je pense que le manga pourrait rentrer là-dedans parce qu'il a un peu le même, comment dire, il y a le même ADN, ce côté récit un peu de divertissement de consommation, mais je pense que c'est l'effet volume et série qui fait que c'est pas les mêmes proportions, quoi.
On apprend d'autres choses dans cette étude. Par exemple, en 5 ans, le marché de la BD d'occasion est passé de 26 millions à 43 millions d'euros, soit plus 69%.
C'est pas mal, ça.
Et dans le même temps, le marché de la BD neuve, donc tout confondu, passait de 443 millions à 793 millions. On est sur la fameuse ère de l'explosion post-Covid, donc plus 79% sur tout le marché de la BD. Et concernant ces fameux 43,3 millions dépensés en BD d'occasion, c'était réparti ainsi, il y avait 30,9 millions pour la BD franco-belge et le comics, et seulement 11,5 millions, soit 26,5%, consacrés au manga. Alors qu'en neuf, on est, selon les années, plus ou moins 50-50.
Ouais, après il y a s'il y a un petit delta à faire aussi, c'est que la BD existe dans les librairies d'occasion depuis beaucoup plus longtemps.
Ouais, c'est vrai. C'est...
Du coup, et elle coûte plus cher, sachant que le manga a aussi malheureusement joué de sa mauvaise réputation à l'époque de ça coûte rien, c'est des livres qui sont pas chers. Le format poche du polar dont parle Robin, la BD a ce truc noble qui, même d'occasion, tu peux trouver une petite rareté en librairie.
C'est ça, et puis je pense que c'est plus récent que le manga soit coté, tu vois. Genre en vrai, c'était un truc vraiment d'occasion de base, alors que la BD, ça fait un moment quand même que les éditions originales sont cotées et valent cher, quoi.
Non, et puis après, je pense que même en termes de fabrication, enfin, je veux dire, le côté cartonné, des albums BD, enfin, il y a une impression de solidité. Et le manga, pendant longtemps, surtout si on parle des mangas qui sont, bon, là on est sur des chiffres récents, mais pendant, il y a même 10 ans, la qualité des livres n'était pas celle qu'on demandait maintenant, quoi.
Rappelez-vous des 3x3 eyes qu'on trouvait de manière tout jaune.
Oui, ça, qui c'est sont devenus bien jaunis.
Cash converteur officiel.
Le 3x3 eyes. Et en 5 ans, le prix d'achat d'un album de BD a augmenté de 22% en occasion.
Ah ouais.
Et a diminué de 7% en neuf.
Bah, il n'y avait pas de raison. Hein. Ça touche l'inflation, touche le marché du neuf. Ça touche aussi celle de l'occasion, sans aucune explication.
Je sais pas comment. Bah non, mais que le manga est venu dopé ou qu'il y a des choses plus rares qui sont arrivées.
Si l'inflation des titres neufs peut être évoquée avec l'augmentation des prix du papier et compagnie.
Ouais, mais sur cette époque, justement, le neuf diminuait en prix. C'était moins 7% sur le neuf en général. Alors que l'occasion grimpait de 22%.
Ah oui, ok, oui, non, c'est bien ce que je me disais. Il n'y a aucune explication, si ce n'est que, c'est bien de s'en mettre plein les poches.
Le manga, lui, a enregistré sur les 5 dernières années, quand on était en 2022-2023, plus 65% d'acheteurs de livres d'occasion, contre plus 142% d'acheteurs de livres neufs.
Ah, c'était l'âge d'or.
C'était l'âge d'or, mais c'est surtout que l'âge d'or, il n'a pas tant que ça bénéficié à l'occasion, à cette époque-là. Et donc, on est peut-être là aujourd'hui,
oui, dans le
contre-coup et dans la vague inverse, dans l'après.
Oui, je ne sais pas si ça va s'inverser, mais en tout cas, oui, à mon avis, le différentiel va être moins important.
Et donc, moins 3% d'exemplaires achetés d'occasion sur cette époque, contre plus 209% d'exemplaires en neuf. C'était quand même complètement dingue, cette histoire. Et donc, concernant les dépenses,
ouais,
on était
sur... passe culture, ça.
Ouais, c'est ça, ouais. On était donc à plus 18% de dépenses en occasion contre plus de 120% en neuf. C'est gigantesque. Quand tu regardes les chiffres, tu te dis, qu'est-ce qu'on a vécu?
Ça fait relativiser quand même sur le manga va mal, tu vois.
En 2018, l'occasion représentait 16% des mangas achetés et 6% en 2022. Et le poids de l'occasion en valeur est passé de 9 à 3% à cette époque-là. Donc là, on est clairement dans une phase où on est prêt à remonter. Puisque le 9 descend.
Ouais, c'est marrant.
Okay. Ouais, c'est marrant l'effet de communication.
En fait, aujourd'hui, avec l'économie mondiale, on voit que c'est compliqué partout.
Oui.
L'inflation, le marché donc, qui en baisse progressive depuis maintenant plusieurs mois, ça se réinverse. Et je n'ai pas de données actuelles, mais voilà, j'ai l'impression quand même qu'on est sur la nouvelle phase et que l'étude de la SOFIA de dans 10 ans va nous donner d'autres résultats.
Ah après un régime, il y a toujours une période de stabilisation de toute façon. Et c'est la période la plus importante. Donc j'espère qu'on va rester un petit peu là-dessus.
Et en 5 ans, le prix moyen d'achat d'un manga en occasion a augmenté de 20%, de 22%.
Ouais, bah toujours pas de sens. Hein. Ça a pas de, ça a
et
pas
le
de
prix du neuf à ce moment-là, là, ça a un peu changé aussi, mais il avait augmenté que de 3%.
Ouais.
Toujours pas de sens.
Tu
refuses ce chiffre?
Non, c'est pas que je le refuse. Je le comprends. Je crois que malheureusement, je le comprends un peu trop bien, quoi.
Moi, je vois un autre élément aussi important, c'est la disponibilité et le maintien en commercialisation des livres neufs. Parce que quand on regarde la part des acheteurs qui ont basculé du neuf à l'occasion par indisponibilité du neuf, si quand t'as pas le choix, quoi, bah c'est 31% des consommateurs qui n'achetaient que neuf et qui se sont mis à l'occasion parce que pas le choix.
Qu'on dû se rabattre comme solution.
Exactement.
Mais ça aussi, ça va encore changer parce que, comme disait Robin tout à l'heure, tout cycle là qu'on a entamé de rééditer des séries qui sont terminées il y a longtemps, effectivement. Bah, pas toutes, hein, effectivement. Donc, mais ça.
Bah oui, parce que moi, tu vois, typiquement, c'est la première question que je me pose, c'est OK, elle m'intéresse la nouvelle édition de tel truc. Et qu'est-ce que je vais faire de mon ancienne, tu vois? Est-ce que je la revends? Est-ce que je la donne? Est-ce que je la garde? Enfin, tu vois, genre, du coup, c'est ça, je pense que ça va alimenter aussi ce marché-là.
Ouais, puis on le voit aussi avec le succès de la réimpression de la série Vagabond chez Delcourt Tonkam, qui de introuvable est devenue première série de leur catalogue depuis 2 ans.
Bah, ça fait plaisir hein, pour Inoue, c'est cool. C'est cool pour lui. Mais mine de rien, c'est vrai que ces rééditions à foison qu'on a pu avoir sur énormément de titres, bah, je trouve que ça a aussi quelque part mis un petit peu un frein à l'inflation des prix sur certains mangas, parce que t'avais de plus en plus ce truc de le prix de tel manga est abusé, et de toute façon, je suis sûr que dans un an, ils vont le rééditer le titre, et la plupart du temps, les gens avaient raison, tu vois.
Mais tu vois, ça pose un truc, bon là, je me lance dans un débat un peu plus profond, mais ça pose quand même la question de... ce marché globalement du livre et du manga et de la BD qui est drivé par la nouveauté, tu vois, parce qu'en gros je pense que s'ils font des nouvelles éditions, les éditeurs, c'est parce qu'ils savent qu'une nouveauté c'est plus facile à remettre en place qu'une réimpression, tu vois. Et en vrai, ça devrait pas être le cas, et le cas Vagabond, il illustre le truc qu'en fait, bah, si l'œuvre elle est bien, il y a pas de raison de faire une nouvelle édition, c'est juste faut la reproposer et faire en sorte que les gens y aient accès, et en fait la forme dans laquelle elle est très bien, tu vois. Mais là on est tellement dans un truc où on a l'impression que c'est obligé que ce soit une nouveauté pour que les gens s'y intéressent, qu'on fait des rééditions et voilà quoi. Mais
bon. T'inquiète, t'auras quand même une nouvelle édition de Vagabond. Hein.
Voilà, j'imagine bien, mais tu vois, je pense que c'est une vraie question.
Bah après, dans le cas de Tonkam, c'est un peu particulier parce que c'est une espèce de un peu de cache-misère aussi d'une époque de Tonkam où justement il n'y avait pas que Vagabond qui était indisponible, il y avait une grande partie de leur catalogue qui était indisponible.
Nana, numéro 2 de leur catalogue.
Et je pense que oui, cette histoire de réédition, c'était un peu un cache-misère de l'époque et aussi comme un moyen. Je pense qu'à l'époque, ils n'avaient pas le choix. Maintenant, ils peuvent le faire et ils le font. Je pense qu'avant, c'était de la politique interne et que du coup, c'était pas genre qu'ils voulaient garder les mangas que pour eux, mais que c'était de la politique interne qui faisait qu'ils ne pouvaient pas. Alors que là, maintenant, ils ont les coudées un peu plus franches, donc ils peuvent y aller.
Dernier point à la question, quel type de livre préférez-vous acheter neuf à l'avenir plutôt que d'occasion? 58% des réponses sont le manga.
Ah ouais, ok.
Ouais, c'est fou. Hein. Donc voilà, le cas du secteur BD, manga, comics représente 18% des achats de livres neufs contre seulement 10% des achats d'occasion. Chiffre donc de.
Ouais, mais je pense en vrai, c'est sûr, c'est le polar et la litté qui prennent tout en livre.
Ah, mais la littérature,
genre, vraiment,
ils sont tellement loin. Mais c'est marrant parce que la BD et le manga, c'est un des seuls avec les livres pédagogiques où c'est la courbe inversée par rapport à la littérature et à tous les sous-segments de la littérature.
Mais parce que je pense qu'il y a le côté graphique qui fait que d'une certaine manière, les gens, quand même, ont envie d'avoir des beaux livres chez eux, tu vois, parce qu'il y a du dessin, il y a un truc, tu vois, il faut une belle fabrication.
Voilà.
Un truc,
et le problème de la fabrication manga, c'est que ça se détériorait très vite à un moment. Donc, oui, je comprends que tu as envie d'avoir des livres qui, comment dire, soient neufs, parce que tu as envie d'avoir un plaisir, d'avoir un bel objet pour toi, quoi.
Si cette étude vous intéresse, elle est publique. Hein. Vous la trouvez sur culture.gouv.fr. Voilà, tout simplement. Le manga d'occasion, c'est donc des chiffres, des données, un marché qui est très riche, des lieux où on peut trouver tous ces livres. C'est aussi un cas assez particulier dans la chaîne du livre, puisque comment ça se passe pour les auteurs ? Que deviennent les auteurs derrière le marché de l'occasion ? Ils touchent rien ?
Bah, c'était un peu ça, c'est un peu ça, je trouve, le gros problème dans tout ce marché auquel j'ai participé. Tu vois, j'ai acheté, j'ai vendu et compagnie, mais c'est vrai qu'avec le temps, m'est revenu de plus en plus la question de mais qu'est-ce que l'auteur touche là-dessus sur une œuvre qui est revendue, qui sort du système du neuf. Ben en fait, l'auteur, il touche absolument rien là-dessus.
Auteur, éditeur, traducteur.
Éditeur,
oui,
voilà.
C'est ça, parce que en plus, dans le cas du manga, tu as quand même la question du traducteur. Enfin, de la traduction qui est quand même un peu touchy.
C'est l'auteur au sens large.
Et la réponse à cette question, qu'est-ce qui touche ? Bah, rien du tout.
Absolument rien.
Rien, parce que rien n'est mis en place aujourd'hui et on peut comprendre que c'est compliqué en plus à mettre en place.
Bah, en repartant de l'argument de Julie qui disait que le marché était dispersé, effectivement, ça le rend quasiment impossible à contrôler parce qu'il faudrait mettre une législation en place, quelque chose de très précis. Et sauf que, comme tu l'as dit, le manga d'occasion se vend autant en ligne qu'en librairie.
Oui, comment on taxe quelqu'un qui, je mets une annonce sur Facebook, qui me dit « viens, on se retrouve à Bastille pour s'échanger des mangas, derrière la colonne Maurice, où tu veux ». Dans un café, viens, on boit une bière.
Et peut-être que maintenant qu'il y a quand même des outils numériques, parce qu'on passe beaucoup par des applis, des choses comme ça, ça serait possible, tu vois, de verser une petite obole ou de...
Bah, personne ne le sait que j'ai vendu des mangas derrière la colonne Maurice.
Ça dépend par quoi vous êtes passé. Si vous êtes passé par Le Bon Coin, il le sait.
C'est qu'on s'échange des messages sur TikTok maintenant pour se vendre des trucs, Robin.
Ouais, mais ça, il y a une trace quand même.
Mais il n'y a même pas besoin. Il n'y a pas besoin de le faire. Il ne t'arrivera rien de toute façon. Tu peux les revendre. L'auteur ne touchera absolument rien de toute façon.
Il y a le gouvernement qui a souhaité instaurer une contribution sur la vente de livres d'occasion, principalement ciblée sur les grandes plateformes en ligne. Donc là, ça visait Vinted, Le Bon Coin, afin de soutenir les auteurs, les éditeurs, les traducteurs et donc de préserver l'équilibre du prix unique du livre. Une idée qui a été donc relancée au printemps 2024, et notamment par la proposition d'une taxe d'environ 3% sur chaque transaction, taxe qui est défendue par le syndicat national de l'édition. Saisi par le ministre de la Culture, le Conseil d'État a rendu un avis bien nuancé sur cette idée. Sur le plan constitutionnel, ils estiment qu'aucun principe fondamental ne s'oppose à la création d'un nouveau mécanisme de contribution sur le livre d'occasion. En revanche, le Conseil d'État souligne une incompatibilité avec le droit européen et plus précisément avec une directive de 2001 dite de première cession. Cette directive repose sur le principe de l'épuisement de droits de distribution. Un auteur ne peut être rémunéré au titre du droit d'auteur qu'au moment de la première vente de son œuvre. Et donc, selon la jurisprudence européenne, prolonger cette rémunération lors des reventes ultérieures ne serait pas autorisé. Et donc, l'avis du Conseil d'État reste consultatif, mais il expose clairement le projet à un risque bien élevé de contentieux si le gouvernement décidait de passer outre.
Après, c'est un sujet qui entre avec un sujet encore plus large de ce qu'on appelle la continuité des revenus des auteurs. Et ça, pour le coup, tu as parlé de la SOFIA tout à l'heure. Et la SOFIA est un organisme qui travaille beaucoup à cette question-là, qui est justement de se départir du fait qu'un auteur ne devrait être rémunéré, comme tu dis, que sur la première cession de son œuvre. Parce qu'en fait, il y a plein d'exploitation dérivée de l'œuvre. D'ailleurs, dans les contrats d'édition, ça peut encadrer plein de types d'exploitation dérivée. Mais il y a aussi plein d'actions que l'auteur peut faire pour mettre en scène son œuvre pour différentes choses, une conférence, un truc. Enfin bref, tout ça entre dans un cadre qui s'appelle la continuité des revenus. Et on peut tout à fait envisager que la revente de livres d'occasion s'inscrirait là-dedans. Parce qu'en fait, quelque part, c'est une manière aussi pour l'auteur de prolonger la diffusion de son œuvre et tout. Et donc, il n'y a pas de raison, quelque part, que les gens continuent à comment dire, consommer et s'imprégner de l'œuvre d'un auteur, alors qu'il est cette œuvre est toujours soumise au droit d'auteur et que lui n'y touche rien. Quoi.
À titre d'exemple, quand un livre, peu importe le livre, est emprunté en médiathèque.
Ouais, voilà, ça s'inscrit dans la continuité des revenus.
Ça s'inscrit dans la continuité des revenus et la SOFIA chaque année reverse exactement une partie en droit d'auteur aux auteurs. Pas énorme.
Quand maintenant aussi, il y a beaucoup de festivals en France. Si vous êtes amateur de festivals de BD, quand vous allez dans des gros festivals où les auteurs viennent dédicacer, bah maintenant il y a des festivals qui rémunèrent les auteurs et dans cette rémunération, il y a une partie de la rémunération qui vient de la SOFIA justement et qui s'inscrit dans cette logique de la continuité.
Après, dans les législations, il y a toujours moyen de trouver.
Ah bah oui, bah de toute façon une loi n'est jamais vraiment gravée dans le marbre, hein.
Même cette directive européenne, il y a toujours à mon avis une solution
tu parles de jurisprudence, donc jurisprudence c'est pas non plus un truc tu vois, c'est pas constitutionnel, c'est un cas particulier qui a créé une loi, donc
de toute façon tout l'aspect juridique, moi j'avoue que j'y connais pas grand-chose et surtout en fait la question que je me pose c'est où est le problème en fait? Les éditeurs sont OK, les auteurs sont OK. Où est le problème, tu vois? Qu'est-ce qui
les législateurs,
ouais. Et les plateformes.
Oui,
mais c'est pas trop d'accord.
C'est ça qui est quand même hallucinant. Il y a clairement, je vais pas dire une prise de guerre non plus, parce que c'est pas des millions à récupérer mais ça serait vraiment de la rétribution juste, tout simplement juste. Ils ont rien à l'heure actuelle. Et tu vois, sachant que même un bouquin qui est vendu d'occasion, il y a une TVA dessus aussi quand même.
Pour moi, la clé, elle est
Il y a même une piste qui est à peu près claire, tu vois.
Pour moi, la piste est par là, mais bon, je ne suis pas législateur.
Donc c'est pour ça, j'avoue que moi, c'est un truc qui me tend autant que, comme je dis, j'ai acheté d'occasion et compagnie, mais ça me tend qu'il y a un angle mort de gens qui se font 100% de bénéf depuis longtemps, et c'est souvent des passionnés et compagnie, tu vois, mais ils se font 100% de bénéf sur une œuvre où ils ont, ils ont pas contribué d'une.
Après, s'ils la revendent, c'est qu'ils l'ont potentiellement acheté neuf. Donc, tu vois, genre, à la limite, eux, ils auront contribué. Non, moi, pour moi, c'est plus les plateformes. Le problème, c'est que eux, pour le coup, ils génèrent des revenus sur des ventes sur lesquelles ils ne reversent pas.
Ça et la spéculation, bien évidemment.
Oui, en plus.
Voilà.
Sur les bouquins plus rares, bien évidemment. On va terminer cette émission en donnant la parole aux éditeurs. Mais juste avant, Cagnard, tu avais une réflexion qui était assez intéressante aussi. C'est sur la manière dont le manga d'occasion a popularisé le manga au sens large.
Oui, c'est ça, parce que il y a quand même cet aspect qui est très fort du manga et depuis des années, c'était vraiment un phénomène sociétal. Je veux dire, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu regardais le Club Dorothée. Donc, à l'époque, tout le monde avait accès au manga de manière équitable, on va dire. Et le marché de l'occasion a fait que quand t'avais pas des masses de thunes, tu pouvais avoir des collections entières à un âge très jeune, tu vois, sans pouvoir les acheter neuves. Et du coup, pour moi, il y a toujours eu un côté un peu, tu sais, ça accompagne ce côté la lecture du pauvre. Je veux dire, j'allais acheter mes mangas d'occasion chez Cash Converter. Et je trouve qu'il y a un truc qui est vachement bien de passeur, tu vois, dans cette idée. Et j'ai pas pu m'empêcher de le mettre en opposition à maintenant ce que je vois des marchés d'occasion. C'est que, tu vois, par exemple, tous les mangas en arrêt de com, dont les prix, ils ont explosé. Maintenant, ça en fait quasiment un produit de luxe, au final, tu vois. Et on est parti d'un truc qui était très populaire, qui était très culture à partager, à maintenant arriver à un produit qui est luxe, mais sa version luxe, c'est la version seconde main. C'est même pas la version neuve. Donc même là-dedans, il y a un truc qui me...
Qui est même moins propre, moins belle.
Oui, qui est moins propre techniquement, tu vois. Donc il y a une espèce de dualité qui est une explication de la place que le manga occupe depuis ces dernières années. C'est qu'on est parti du truc le plus populaire qui existait pour en arriver à limite... un truc pas logique de la version d'occasion coûte plus cher que le neuf.
Ouais, c'est genre, et si t'achètes ça d'occasion, c'est que t'as vraiment les moyens.
Dragon Ball Pastel, hein.
Oui, les Dragon Ball Pastel.
Oui, mais c'est
Dragon Ball Pastel qu'on achetait à 1,50.
Oui, et surtout, enfin, je pense que c'est plutôt, comme disait Maxime tout à l'heure, le souci de la spéculation, du fait qu'on joue beaucoup sur la nostalgie, le fait que les œuvres elles soient pas disponibles. Enfin, la dernière fois, je voulais faire des recherches sur un titre qui, clairement, ne reverra plus comment dire, ne sera plus jamais édité en France. Et tu trouves les 9 tomes à plus de 1 500 €. Enfin, quel est ce délire?
C'est les brokers, en fait.
C'est la loi de l'offre et de la demande. Hein,
Tu vois, c'est un métier à proprement parler maintenant d'être broker. Tu le fais sur des chaussures, tu le fais sur des vêtements, tu le fais sur des montres. Et les gens qui revendent à ces prix-là ne sont pas plus passionnés de manga que de montres, en fait. C'est juste le marché spéculatif. Et ben voilà quoi, le libéralisme sans limite gâche tout, au final.
Comme ce que vous voyez.
Le capitalisme, merde.
Parfois, sur des événements de lancement de manga où il y a des gens qui font la queue pour avoir la fameuse jaquette inédite qui est cadeau, qui est offerte, pour la revendre, mais 10 minutes après. Et on a vu des gens qui allaient chercher d'autres personnes qui passaient dans la rue, qui faisaient rien, en leur proposant de l'argent pour qu'ils aillent faire la queue pour avoir cette fameuse jaquette. Enfin, on est à ce niveau-là.
Ouais, mais c'est...
Marché spéculatif, c'est fou. Et moi, je repense encore à Sprite. On a fait une émission sur Babel, The New Wakandan, à la fin de l'année dernière, que je vous encourage à écouter et je vous encourage à lire ce manga, Babel, The New Wakandan, d'occasion ou neuf, au choix. ce manga qui est de près ou de loin, je vous en dis pas plus, relié à Sprite. En ce moment, j'essayais de voir si je pouvais me refaire la collection des Sprites en physique. Mm-mm. Impossible, Cagnard. Alors qu'ils sont dispo en numérique.
Ouais.
C'est ça qui est. Alors en plus, Sprite, ce qui est marrant, c'est que pour moi, ça fait partie des œuvres qui se trouvaient très facilement à Cash Converter, voilà, une certaine époque, parce que.
Ouais, mais les premiers tomes.
Oui, voilà, tout le monde s'en est foutu très vite de cette série. Du coup, je pense qu'ils étaient trouvables.
Bah, c'est souvent le problème, hein, c'est que les premiers tomes sont pas chers et
après, c'est
les éditions Atlas. Quoi. C'est le premier numéro.
Ou alors des fois, t'as des choses étranges, genre t'as un manga qui s'appelle Shikabane Hime, le tome 14, impossible.
Ouais.
Nulle part. Personne n'a tome 14. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas imprimé.
Exficoden 3, il manque le dernier tome que je n'ai toujours pas.
Mais le dernier, tu peux comprendre qu'ils en impriment moins. Ouais. Le tome 14 sur 26. Pourquoi ils en ont imprimé moins? Qui étiez-vous à l'époque? Chez Kazé. Devenu Crunchyroll.
C'est marrant parce qu'au final, si jamais t'imagines, si c'était le seul tome de toute la collection que t'avais pas lu, bah au bout d'un moment je te dirais non, mais sinon tu sais, trouve un scan, trouve une version PDF.
Il y a la version numérique qui existe,
mais tu sais quoi, dans une société post-apocalyptique futuriste, là où le papier n'existe plus, la terre a brûlé, bah peut-être que le manga d'occasion, ça sera du manga numérique, tu vois, et il y aura de la spéculation là-dessus aussi, ça sera des sortes de bitcoin, de NFT. Il en existe qu'un seul.
Est-ce que à l'heure actuelle,
tu veux que je te revende mes PDF?
À l'heure actuelle, ça
dépend lesquels.
Ça s'appelle le piratage.
Oui, et j'espère qu'il y aura de l'eau et du papier et pas que des serveurs dans ton monde post-apo.
Passons maintenant à ce que pensent les éditeurs de ce marché de l'occasion pour terminer cette émission. On a interrogé deux éditeurs pour avoir leur vision du marché du manga de l'occasion. Deux éditrices, tout à fait. Gléna par l'intermédiaire de sa directrice éditoriale, Satoko Inaba, et Kana avec la directrice générale du groupe d'Argo Lombard, Christelle Hollance. Et vous allez voir que les regards se croisent mais ne se ressemblent pas parfaitement. Et la première question qu'on leur a posée, c'était: quelle est aujourd'hui votre position vis-à-vis du marché du manga d'occasion? Du côté de Satoko Inaba des éditions Glénat, la réponse est: c'est l'un des gros facteurs de perte identifiés ces derniers temps, notamment sur le fond de catalogue. Tant que ces phénomènes étaient restreints à des échanges entre passionnés ou quelques magasins spécialisés, l'équilibre fonctionnait. Mais aujourd'hui, avec les grosses plateformes de revente en ligne où il est très facile de trouver ce qu'on cherche, l'impact devient très inquiétant pour le marché du livre, notamment pour les auteurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et du côté de Christelle Hollance, des éditions Cana, aujourd'hui, nous avons du mal à mesurer l'importance de ce marché. Il existe des études qui ont été menées sur le sujet, notamment celle de la SOFIA, commandée par le ministère de la Culture il y a 2 ans maintenant. Et on sait que c'est un phénomène en croissance, mais encore relativement périphérique. Cela nous semble un comportement naturel de notre lectorat, dont le portefeuille ne s'est pas élargi alors que les séries sont toujours aussi longues. Cela permet aussi de tester une série à moindre prix, et l'occasion est alors un acteur complémentaire qui participe à la circulation de l'œuvre. Un autre phénomène qui est difficilement mesurable, c'est le piratage, conseil immense, mais quelle part de manque à gagner? Difficile de le calculer. Bref, un manque à gagner encore relatif aujourd'hui. Ceci dit, c'est un phénomène que nous suivons avec beaucoup d'attention.
Ouais, c'est marrant, ces réponses, je trouve qu'elles vont quand même un peu dans le même sens. Genre, on n'est pas sûr de ce qui se passe, mais on sent qu'il se passe un truc quand même.
Moi, je vois vers à moitié plein, vers à moitié vide. Mais oui. Genre, même analyse, mais Il y en a une plus positive que l'autre ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y en a une qui parle peut-être plus du good old time, où c'était l'époque des passionnés, on faisait ça et ça dérangeait pas du tout. Époque où dont on a bénéficié aussi. Et il y a, oui, il y a l'autre école qui est un peu plus leur... faut s'inquiéter un peu quand même, surtout pour les auteurs.
Autre question, seconde question. Est-ce un sujet qui fait l'objet de discussions internes, même informelles, au sein des équipes ? Christelle Hollande des éditions Cana nous dit « Oui, c'est un sujet qui est suivi en interne. On tente de comprendre les comportements d'achat des lecteurs, l'impact potentiel sur les ventes de fonds et les réimpressions, et on suit de près l'évolution des plateformes spécialisées et la manière dont elles structurent le marché. C'est le développement de l'offre d'occasion sur Internet, Vinted, Le Bon Coin, Momox, etc., qui profitent à ce circuit grâce aux outils d'alerte quant à la disponibilité et le comparatif des prix entre les sites, par exemple. » Du côté de Satoko Inaba des éditions Glénat, la réponse est oui, c'est un sujet qui intéresse à tous les niveaux, pas uniquement dans les maisons d'édition, mais sur toute la chaîne du livre. L'impact sur les libraires est déjà très fort et certains libraires ont commencé déjà à vendre de l'occasion à côté du neuf. C'est sans doute une solution économique pour eux, mais il ne faut pas oublier que c'est une décision qui nuit beaucoup au reste de la chaîne, notamment à l'auteur qui se retrouve de l'autre côté du fil.
Bah, on a toujours le même divergence, quoi. T'as le côté genre, y en a une qui dit oui, c'est risque et opportunité, quoi. Il y en a une qui voit ça plutôt comme une opportunité et l'autre qui voit ça plutôt comme un risque, mais surtout en prenant en compte l'auteur, quoi, parce que c'est vrai qu'au final ça reste quand même un peu comme Cagnard disait tout à l'heure, c'est quand même un peu ça aussi la clé du truc, quoi. C'est ok, c'est cool le marché d'occasion, ça peut valoriser un secteur, etc., mais on est quand même sur une économie qui rémunère les auteurs sur les ventes, donc faut aussi se poser cette question là C'est pas une question à juste balayer d'un revers de main, tu vois, c'est un truc vraiment central dans la discussion, quoi.
Troisième question, on leur a demandé si ils ont déjà envisagé des initiatives encadrant ou accompagnant la seconde main. Satoko Inaba nous dit « Il serait en effet judicieux d'encadrer la seconde main pour que les méga-plateformes ne soient pas les seules à bénéficier des ventes, mais qu'il y ait un juste retour aux auteurs et acteurs du marché du livre. Mais ce n'est pas quelque chose qu'un éditeur seul peut mettre en place. S'il existe une loi encadrant le prix unique du livre neuf, il serait peut-être envisageable de trouver une solution à l'échelle nationale pour la seconde main. » En fait, Satoko, elle a écouté tout le début d'émission, elle est d'accord avec nous. Christelle Hollande nous dit « Nous étudions plusieurs pistes, mais il est trop tôt pour les partager ici. » Mystère. Ça bosse sur un truc. Ouais.
Après, ce serait effectivement une piste intéressante quand même d'avoir les éditeurs qui puissent avoir un regard comme sur ce, enfin, ou même organiser des ventes, je sais pas, via leur site ou
certains le font. Meian, Nueve Graphics sur le site Anime Store par exemple, il y a de la revente d'occasion. Du côté de Black Box, de Yamacho, on en trouve aussi. Issan Manga s'y est mis également.
En fait, ce qui est compliqué, c'est faut pas oublier que les éditeurs, leurs clients principaux, c'est pas les lecteurs, c'est les libraires. En fait, si tu fais de la vente directe en tant qu'éditeur, tu te mets un peu les libraires à dos, parce qu'en gros, c'est comme si tu faisais de la vente sur le dos de tes clients, quoi. Et du coup, c'est toujours un équilibre qui est vraiment pas facile à maîtriser. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des gros éditeurs, entre guillemets, font très peu de ventes directes, en fait. Enfin, font très peu de ventes ils n'ont pas de site marchand et tout, parce qu'en fait, quand tu es éditeur, ton client principal, c'est le libraire, quoi. Et c'est lui qui, après, derrière, va défendre tes œuvres. Donc, il faut travailler cette relation-là, qui est hyper importante aussi, quoi.
Tous les éditeurs que tu as cités, au final, ça reste quand même des petits éditeurs, je pense, qui font de la revente, parce que c'est un revenu complémentaire à l'activité qu'ils font. Je pense que dès que tu arrives au niveau des grosses maisons d'édition, ça se complexifie. Et il faut aussi se dire que nous, on regarde par notre prisme manga, bande dessinée, mais en fait, ça va concerner tous les acteurs du milieu du livre, donc roman aussi et compagnie. Donc, où ils n'osent pas imaginer la réunion très compliquée qui va être organisée.
À noter aussi que par rapport aux deux personnes qui nous répondent, qui représentent Glénat et Cana, Glénat c'est un quart du marché du manga en France, Cana c'est un dixième, un peu plus. Voilà, on est sur...
C'est ça, c'est que si t'es Mayan et tu leur dis on fait de la vente par correspondance, le libraire il dit oui, bon bah t'es quelques kingdoms que je vendrais pas, bon c'est pas très grave, tu vois. Mais si t'es Glénat et que tu dis bah oui, One Piece je vais les vendre maintenant en direct, il va faire... c'est pas pareil.
Non, puis même déjà entre 25 et 10-11%, le gap est déjà énorme, tout simplement. Quatrième question, certaines initiatives d'éditeurs français comme la vente d'ouvrages d'occasion ou reconditionnés, on en parlait, hein, ou via des plateformes propriétaires vous semble-t-elle anecdotique ou révélatrice d'une évolution possible du marché ? Christelle Hollande nous dit « Ces initiatives ne sont pas anecdotiques, car elles traduisent un besoin réel d'expérimentation porté à la fois par les lecteurs et l'évolution des pratiques d'achat. Nous les voyons comme des initiatives intéressantes que nous suivons, car elles permettent aux éditeurs de tester le public à l'occasion de manière encadrée. Le reconditionné, lui, est une piste intéressante, car elle peut répondre à une demande écologique et économique, mais il est trop tôt pour savoir si ces modèles seront structurants, cela reste expérimental. » Quant à Satoko Inaba, des éditions Glénat, elle nous dit « C'est une solution possible, à petite échelle, mais il faudrait sans doute d'autres initiatives applicables à plus grandes échelles. »
Bah mine de rien, sur le reconditionné, il y a quand même un truc intéressant. Elle aborde l'argument écologique. C'est un argument qu'on n'a pas du tout abordé. Et bon, bah moi, quand j'entends reconditionné, je pense à iPhone, je pense à Samsung, tu vois, je pense aux tablettes moins chères. Et back du coup, market. Je trouve ça, ouais, back market, et je trouve ça marrant. En fait, je trouve ça un peu antinomique de parler de livres pour ce genre de revente, mais en fait c'est logique, c'est aussi un bien comme un autre.
Qu'on appellerait reconditionné, ça serait du livre qui a pas vraiment été lu, qui a été mis en vente, tu vois. Je sais pas comment on pourrait le définir pour le livre. Hein.
Si feu festival d'Angoulême, quand on y allait, rappelez-vous. Non, mais par exemple, tu vois, quand tu vas sur quand t'allais là-bas sur le stand de Cornelius ou du Lézard Noir, ils avaient un stand, enfin ils avaient un espace défraîchi, tu vois, c'était un peu je pense que c'était les stocks un peu abîmés ou les trucs comme ça, parce qu'en fait, en gros, quand t'es une maison d'édition, tu fais une production un peu à rythme industriel, donc t'as beaucoup d'exemplaires que tu produis, et en général, t'as des exemplaires un peu abîmés, défraîchis, machin et tout, et je pense que eux, ils arrivent, comme ils sont des petites structures, ils arrivent à, comment dire, gérer ces stocks qui sont pas énormes, pour les reconditionner et les reproposer à la vente. Mais c'est vrai que quand t'es Glénat, t'es distribué par Hachette. Voilà, je le dis, peut-être les gens ne le savent pas, mais Hachette, c'est une énorme machine. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de visiter les entrepôts ou la logistique des envois et des livraisons Hachette sont faites, c'est monstrueux. T'es dans Brésil, quoi. Il y a vraiment
un truc. On s'imagine pas à quel point il y a des robots partout.
Non, mais il y a des robots partout et c'est impossible, en fait, de faire de la dentelle sur mes petits exemplaires de One Piece qui sont abîmés. En fait, je vais les garder dans un coin puis je les revendrai. Enfin, voilà, quand t'es sur des volumes comme ça, c'est pas possible, en fait, logistiquement. Donc, c'est aussi pour ça, je pense que. Ou alors, il faut vraiment que ce soit une espèce de truc un peu, tu vois, table rase et on fait une espèce de. Pareil, moratoire sur tout ça, tu vois, sur. Comment on reconditionne le livre et tout ça, mais c'est vraiment voilà, on parle vraiment de, quand on parle des gros éditeurs, on parle de volume très très important, quoi. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué, quoi.
Cinquième et dernière question posée. Enfin, pensez-vous que ce sujet soit appelé à prendre plus d'importance dans les années à venir pour les éditeurs, ou restera-t-il structurellement en périphérie du modèle économique de l'édition de manga, comme c'est le cas actuellement? Réponse de Satoko des éditions Glénat. Oui. Si le phénomène se développe sous sa forme actuelle, les auteurs ne pourront plus vivre de leur art et les éditeurs ne pourront plus imprimer de livres. La proposition éditoriale risque donc de fortement diminuer. Cependant, d'un point de vue écologique, il est évidemment très intéressant de donner une seconde, voire une troisième et même une quatrième vie aux ouvrages. C'est donc effectivement plutôt sur une possibilité de régulation de la vente en seconde main qu'une solution pourrait se trouver. Du côté de Christelle Hollande, probablement oui, mais de manière maîtrisée et progressive. Cela semble durable pour plusieurs raisons. Le lectorat manga est jeune et très digitalisé. Les séries longues génèrent mécaniquement un marché circulant. La sensibilité écologique pourrait pousser vers cette solution, même si cette raison n'apparaît pas dans les études faites jusqu'ici. Et les plateformes spécialisées se professionnalisent progressivement. La seconde main devrait gagner en visibilité, mais sans remettre en cause notre économie, car le cœur de marché repose toujours sur les nouveautés, les rythmes de parution et la vitalité du fond. Et c'est là où on voit que on est sur deux visions
pas
vraiment contraires, mais différentes.
Là, il y a une divergence. Ouais.
Ah bah, il y a une version « Le livre va mourir ». Là, le verre, il n'est plus à moitié vide. Là, hein. C'est, le verre est cassé, ça y est, l'eau est partout, maintenant c'est fini. Mmh. Et il y a une autre vision un peu plus « Non, mais on va surveiller, il faut se tenir prêt, en tout cas. »
Oui, parce que on a regardé quand même les chiffres et tout, et j'avoue que j'ai du mal un peu avec cette vision un peu alarmiste, en fait.
Après, ce qu'il faut se dire, c'est que nos chiffres, ils datent. Et tu as vu qu'en l'espace d'un an, je reprends ceux de
la bourse
au
livre,
ça a quand même doublé. Donc, je pense qu'à mon avis, le côté alarmiste, il est plus sur le côté attention. Genre, OK, là, pour l'instant, c'est ça va. Et encore, on est à la limite, en fait.
En
incapacité de vraiment mesurer, parce que Christelle Hollande disait elle-même, c'est difficile à mesurer et tout. Et justement, l'idée, c'est d'être présent très, très rapidement sur le côté faisons attention quand même. OK, ça existe. Et l'idée, c'est pas de faire en sorte que le livre d'occasion n'existe plus. Évidemment, c'est important pour la vitalité du livre aussi. Mais c'est aussi, faut pas que ça se fasse de manière complètement dérégulée, comme là, c'est en train de se faire, en fait. Parce que là, actuellement, c'est ça qui se passe. C'est...
Mais comme on est face sur beaucoup d'évolutions à des législateurs qui sont très en retard, en fait.
Ouais, voilà.
Pour encadrer.
Et en fait, en général,
tout.
Le business va toujours 10 fois plus vite que la régulation. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut être aussi attentif et pas non plus être trop attentiste sur ce genre de questions, parce que. Le marché, ça se régule, hein. C'est comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma philosophie de vie, mais après, voilà, je sais qu'il y a des gens, c'est pas leur point de vue, mais moi, c'est mon point de vue, quoi.
Concluons cette émission. Moi, pour conclure, j'ai envie de donner un petit tips. Moi, en tant que collectionneur de manga, j'utilise un site qui s'appelle Chasse aux Livres. Et sur Chasse aux Livres, on peut mettre plein de petites alertes pour chercher tous les mangas qu'on veut sur Internet. Et surtout, très important, même quand vous êtes sur Chasse aux Livres avec vos alertes et tout, sortez. Brocante, faut vraiment aller dehors.
Parce qu'en plus, moi, je trouve qu'il y a un côté, la brocante, c'est trop bien pour le côté la découverte, tu vois. Genre, les trucs que t'as. Parce que quand t'achètes sur Internet, c'est des trucs que tu veux, tu vois. C'est un objectif, tu veux acheter ce truc-là, mais la brocante, c'est la découverte aussi.
Du coup, moi, je trouve qu'on est arrivé à un. Bah, tu vois, je suis un petit peu des deux avis des deux éditrices. On est arrivé à un moment qui est très charnière, je veux dire. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très mignon, très passeur de culture, cet effet manga d'occasion que tu peux acheter moins cher et compagnie. Et sauf que là, je pense qu'on arrive vraiment à la limite où, en fait, ça commence à représenter beaucoup trop d'argent et trop peu d'argent qui rentre dans les poches des auteurs. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment inadmissible. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est à un moment qui est assez charnière. Et moi, je suis de l'avis de Robin, il va falloir régulariser ça parce que ça ne peut plus durer.
Le problème du moment charnière, c'est qu'on est dans le ni trop ni pas assez. Ça génère pas non plus suffisamment d'argent pour que ça devienne un véritable enjeu.
Mais c'est pas pour ça qu'il faut se reposer sur nos lauriers et laisser le truc faire parce qu'après tu seras trop tard. Donc.
On est en plein Jeux Olympiques, ce qu'on appelle les gains marginaux pour un sportif. c'est le moment où si je dors 10 minutes de plus, je peux faire une demi-seconde de plus à la fin. Et ben voilà, je pense qu'on est sur ces gains marginaux pour l'édition, le mot de la fin. Et pour toi, Julie ?
Merci. En fait, c'est marrant parce que je me disais que le manga d'occasion, c'était aussi un reflet de ce que le manga est à la base, c'est-à-dire un objet de consommation très rapide. Quelque part, ça nous rapprochait des pratiques qu'il y avait au Japon où vraiment, même les collectionneurs, en fait, à part les gens vraiment très chevronnés, je pense qu'il y a vraiment une circulation qui est nécessaire, en fait, à ce genre d'objet culturel. Donc, j'ai envie de toucher du bois, croiser les doigts pour que tout ça ne se casse pas la figure.
J'ai passé des journées entières dans des bouquinistes au Japon.
Ah, c'est super.
Des journées entières. Genre le matin, je suis allé manger, je suis revenu l'après-midi. Et en fait, c'est des centres commerciaux de manga, des fois.
Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est impressionnant. J'adore ça. Je préfère quand même mes anecdotes à la brocante. Peut-être parce que j'étais bourré dans la brocante.
C'est pour ça aussi.
La braderie, y a pas de moules frites au Japon, non ?
Il y a des takoyaki.
On parle de sorciers la semaine prochaine avec Ichi the Witch. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Si vous avez des questions, s'il y a des points de détail aussi qui vous questionnent, n'hésitez pas à nous laisser un message sur nos différents réseaux sociaux. Puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à vous abonner sur nos différents canaux. Merci à tous d'avoir écouté cette émission et à la semaine prochaine. Ciao, salut.
Salut.
Merci.